Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, je propose, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc, si vous voulez ouvrir avec moi. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de lumière, s'il vous plaît ? Merci. Alors, Luc, chapitre 18, et nous allons examiner ce passage. Donc, 18, verset 9, c'est une étude que Jésus fait sur le caractère des hommes. Vous savez, dans l'évangile de Jean, Jésus dira qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Alors, on va le voir à travers cette image, parce que c'est une parabole, mais qui concerne deux catégories d'individus. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Donc, Luc 18, 9, Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voilà. Et bien que le Seigneur nous bénisse à travers cette parole que nous connaissons, puisque nous l'avons déjà considérée ensemble à plusieurs reprises, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et peut-être nous aider à véritablement nous connaître nous-mêmes et puis de bien connaître aussi les autres, c'est important. Alors vous avez remarqué avec moi, ce passage nous parle de deux hommes dont nous allons donner un petit peu l'état, la situation d'ici quelque temps, et j'ai voulu donner un titre à cette prédication, « L'humble et l'orgueilleux ». Alors ça veut dire tout ce que ça veut bien dire naturellement, et nous allons voir qu'ils se réunissent d'une manière tout à fait particulière, puisque le lieu de leur réunion, c'est le temple de Jérusalem, supposé naturellement le temple de Jérusalem, et ils vont tous les deux pour prier. Donc on pourrait dire que voilà, c'est quand même une situation qui pourrait prédisposer à la première condition, c'est-à-dire l'humilité. Mais nous allons voir que derrière les apparences, il peut y avoir aussi des choses qui révèlent les personnalités et les intentions et les motivations. Alors le verset premier, enfin le premier que nous avons lu ensemble, c'est le verset 9, c'est Jésus qui va donner cette parabole, fin observateur des gens de son temps, mais je crois que depuis toujours, ça n'a pas trop changé dans l'attitude des hommes. Alors il a donné cette parabole et il nous est simplement expliqué, c'est un préambule en quelque sorte, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Alors naturellement, l'histoire est déjà campée à travers cette petite explication en nous disant, des gens qui se croient eux-mêmes supérieurs, qui pensent qu'ils sont au-dessus de leurs semblables et qui se paient le luxe en s'ignorant eux-mêmes dans leur état d'orgueil, en se payant le luxe de mépriser les autres en disant « les pauvres sont bien malheureux, je suis quand même meilleur qu'eux, je suis quand même quelqu'un qui est au-dessus de tous ces gens-là ». Alors c'est intéressant parce que on s'aperçoit que les siècles ont passé, ont défilé, et puis le message de Jésus ce soir serait tout à fait pleinement d'actualité pour notre temps, et qui peut-être plus est encore davantage. Alors Jésus nous parle tout simplement de gens qui sont convaincus d'être tout simplement en règle et de s'illusionner eux-mêmes d'une fausse réalité d'être. Ils pensent qu'ils sont ainsi et ils se donnent tous les attributs et toutes les congratulations ou félicitations à eux-mêmes, mais quel jugement sur les autres, hein. Et c'est ce que Jésus veut faire ressortir particulièrement. Et tout simplement, ce que nous pouvons dire, puisque Jésus va percer le secret, le voile des cœurs, eh bien, il va dire, mais ils sont complètement dans l'illusion. Hein. Ils pensent être mieux, ils pensent être au-dessus, et finalement, eh bien, on va en voir la conclusion, on verra que Jésus le dira d'une manière tout à fait simple, mais catégorique. Quand il parlera de l'un et de l'autre, il dira, eh bien, le second, eh bien, lui est rentré chez lui, justifié, pas par les hommes, mais justifié tout simplement par Dieu. Alors, à qui s'adresse ce message? Eh bien, d'abord, je pense que Jésus était suivi d'un grand nombre de personnes, par-delà ses disciples. Hein. Vous savez très bien que Jésus avait 12 disciples avec lui, mais je pense que ça ne les concerne pas directement. Je crois que Jésus, comme il l'a fait quelquefois, eh bien, il voit tous ces gens qui sont autour de lui et il est en train de prendre en considération eh bien, tout cela. Et ça s'adresse particulièrement aux suivants. C'est-à-dire, ce ne sont pas des disciples. Ce sont des gens dont la personne ou la personnalité de Jésus intéresse, en quelque sorte. Ce sont des gens qui suivent Jésus parce qu'il fait des miracles. Voilà, en quelque sorte, ce sont des badauds. On pourrait dire comme ça, des suivants. Mais ça ne les intéresse pas plus que cela. Quand Jésus aborde des sujets d'une grande importance, quant à la vie éternelle ou tout simplement la repentance, ce n'est pas trop ce qui les intéresse. Et on pourrait dire que ces suivants eh bien, de Jésus ont l'esprit pharisaïque. C'est-à-dire qu'ils sont bien dans cet esprit mondain de penser que tous les autres sont mauvais et il n'y a que qui soit bien et qui soit bon. Alors c'est un esprit religieux. On va le voir, puisque Jésus prendra l'exemple d'une catégorie d'Israélites qui, véritablement, est beaucoup plus qu'une catégorie, voire même une secte, hein, de gens qui pensent être au-dessus du panier, bien qu'ils aient eu une histoire qui était très intéressante, les pharisiens. Au début de leur histoire, hein, c'est vrai que c'était des gens qui s'attachaient à la parole de Dieu, qui s'attachaient à Dieu, etc., et qui étaient certainement encore, dans une certaine mesure, assez modestes et humbles, voulant véritablement eh bien, plaire à Dieu et faire ce qu'il fallait, mais les siècles ont passé, parce que l'apparition des pharisiens remonte à 300-400 ans, hein. On les appelait les assidimes, c'est-à-dire les purs, et au départ ça pouvait encore passer. Mais il y avait quelque chose qui s'est installé, c'est cet esprit religieux, permettez-moi, mais détestable, voilà, que Jésus va souligner, de leur propre justice, selon leurs normes personnelles, c'est-à-dire qu'ils avaient modifié les commandements de Dieu, la parole de Dieu, pour en faire eh bien, des statuts, pour régenter la société, leur société à eux. Et ce qu'ils pensaient eh bien, devait être la norme pour tout le monde. Et si les gens n'étaient pas dans l'alignement, eh bien, on sait très bien que Jésus a eu des paroles extrêmement sévères et rigoureuses à leur encontre en disant « Vous avez changé le commandement de Dieu au profit de vos traditions. » Et on sait tout cela, hein, naturellement. Et il leur dira, il leur balancera aussi, il leur dit, mais hein, vous honorez Dieu du bout des lèvres, mais votre cœur, il est bien éloigné, hein, il n'y a plus rien du tout, hein, finalement, de tout cela. Alors, leur propre justice, leur suffisance, tout simplement, leurs normes personnelles imposées aux autres, c'est-à-dire à la mesure d'eux-mêmes, en disant, bien voilà, parce que je suis bien, tout le monde doit m'imiter, je suis un modèle pour les autres, tout en méprisant son semblable, c'est ce que Jésus est en train de nous dire, le considérant comme un être inférieur, comme s'il y avait différentes classes. C'était en quelque sorte des sous-juifs, hein, comme aujourd'hui, malheureusement, eh bien, on considère dans certaines sociétés, et peut-être pas très loin aussi de chez nous, peut-être même chez nous, qu'il y a des sous-hommes, hein, et ça déclenchait des choses abominables, hein, l'extermination de certaines ethnies ou autre chose. Voilà donc les choses qui sont le cadre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le temple et la prière. Alors, on pourrait penser que normalement, entrer dans un temple pour y prier, ça devrait être favorable. Quand même, hein, c'est un lieu normalement où les mœurs s'adoucissent. Enfin, en principe, c'est comme ça que ça se passe. Et ça devrait unir les hommes. Et on s'aperçoit que le fait religieux, au lieu d'unir, quelquefois divise encore beaucoup plus qu'on pourrait se l'imaginer. C'est terrible. Il faut voir le morcellement des religions dans le monde. Il faut voir un peu comment chacun tient à sa vérité, à son clocher, à sa chapelle, enfin j'en passe et des meilleurs, ou à sa mosquée, ou à son temple, voilà, peu importe. Hein. Mais c'est quand même assez troublant, et je crois que Jésus l'avait vu en Israël de son temps, mais je pense qu'il ne se trompait pas, parce que la parole de Dieu, eh bien, elle passe les temps, elle passe les siècles, hein, elle pénètre tout cela, et je crois que la parole de Dieu est tout à fait d'actualité encore aujourd'hui dans le fait de ce qui nous est présenté, donc le temple et la prière. Il y a deux opposés, et Jésus le met en évidence, c'est-à-dire deux personnes, deux personnalités, deux caractères, deux tempéraments. Il y a un pharisien, j'en ai dit quelques mots il y a un instant, et puis il y avait, je pourrais dire, les non-religieux, les publicains, les non, comment dire, ils étaient juifs, hein, mais juifs tout simplement parce que c'était la tradition ou la société qui le voulait, de culture juive. Mais quand aller à la synagogue ou quand aller au temple, ils préféraient faire des affaires, ils préféraient faire autre chose. Mais c'est intéressant de le prendre en considération parce que c'était des gens qui étaient souvent décriés. Oh, ils avaient des professions un petit peu particulières, c'était des professions qui les amenaient particulièrement vers l'argent. Comprenez l'enrichissement et tout ça. Hein, on les appelait les pharisiens très souvent, ils nous en ont présenté, ils se sont convertis, hein. Ils se sont tournés vers Jésus, ils ont suivi Jésus. On les appelait les péagers, comme Matthieu par exemple, et comme d'autres. Alors ils étaient un petit peu honnis, ils étaient un petit peu déconsidérés dans le monde d'alors, parce que c'était des gens qui faisaient du commerce. Mais je vous dirais qu'il y a... Encore dans notre pays, il y a quelques siècles en arrière, les commerçants étaient mal vus par la religion. Eh oui, il fallait avoir un statut beaucoup plus que ce maniement des espèces sonnantes et trébuchantes, vous comprenez. Alors, du temps de Jésus, c'était ça. Parce qu'il gagnait de l'argent, alors on soupçonnait tout de suite que quand il gagnait de l'argent, il le gagnait malhonnêtement. Alors peut-être qu'il y en avait qui le gagnaient malhonnêtement, mais il y en a d'autres qui ont certainement fait des affaires, et ça se faisait avec une conscience honnête. Alors les pharisiens, c'était véritablement leur menu de prédilection. Quand ils pouvaient finalement critiquer, quand ils pouvaient juger et condamner dans ce domaine, comme dans le domaine de la prostitution, ils n'ont pas fait de cadeau à certains personnages de la Bible qui eux aussi se sont convertis. Alors ils ne s'en privaient pas. Et Jésus va mettre les deux. Voilà. Dans la société juive de l'époque, il y avait les collémontés, on peut dire, hein. Ceux qui étaient au-dessus du panier, les pharisiens, parce qu'ils allaient au temple tous les jours, parce qu'ils faisaient ceci et cela. D'ailleurs, il le rappelle, hein, ce brave bonhomme-là, le premier. Il dit, mais attention, hein, moi, je suis plus blanc que neige, hein, en quelque sorte. Hein, je n'ai rien à me reprocher. Et puis, cette opposition marque deux styles de vie et deux mentalités aux extrêmes. C'est pour ça qu'il y avait des conflits. C'est pour ça qu'il y avait, cette histoire. Alors, nous allons commencer par l'orgueilleux. Vous savez ce que c'est que l'orgueil ? Souvent, les orgueilleux, ils ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Voilà. Parce que ils ne peuvent pas s'apercevoir, puisqu'ils sont tellement élevés dans leur pensée, dans leur considération personnelle, ils se disent, moi, il n'y a pas plus humble que moi. Donc le fait de dire ça, ça vous classe tout de suite dans la catégorie où vous êtes réellement. Hein. Alors voilà, donc, on va commencer par lui, et c'est un orgueilleux impudent. Parce qu'il ne s'aperçoit pas d'où il en est rendu. Et vous savez, il y a dans le livre des Proverbes cette parole qui est quand même intéressante, parce que c'est écrit avant. Vous savez, on est en train de discuter d'un fait de personnalité, de caractère, d'un tempérament, mais écoutez, dans le livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse, oui, le livre de la réflexion pour bien vivre, et également, obtenir, être agréable à Dieu, il est dit à un moment donné, dans chapitre 30, il est dit, « Il est une race qui se croit pure. » C'est bien eux. Et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il se croit pur, comme nous l'avons lu. Il se croit au-dessus des autres. Qui s'imagine être au-dessus des autres. Alors, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Voilà. Vous voyez un petit peu la signification. Remarquez, je suis déjà plus haut que vous. Mais je voudrais quand même rester à votre niveau, quand même, si vous le permettez. Alors on a compris un petit peu ce que ça veut dire. Sa prière ne demande rien. Si vous faites l'étude du texte, vous verrez qu'il ne demande rien, il ne parle que de lui-même. Et vous avez remarqué, les orgueilleux, ils ne parlent que d'eux. C'est leur monde, c'est à eux, c'est ceci, c'est cela. Et le reste, ça les indiffère. Hein. Ils n'ont pas besoin d'écouter les histoires qui concernent les autres. Et encore moins lorsqu'il s'agit de répondre à des appels au secours, vous débrouillez, vous avez tout ce qu'il faut hein, à côté, mais pas moi en tous les cas. C'est le problème, vous savez, du Samaritain qui vient délivrer ce pauvre blessé sur la route, il nous est parlé là de docteurs de la loi, il nous est parlé de scribes, et qui vont passer outre et qui vont regarder de haut en disant là, attention, hein, moi j'ai pas de temps à perdre. Donc ils étaient bien une caractéristique de ce que nous sommes en train de dire ce soir. Alors sa prière ne demande rien, mais il se met en valeur devant Dieu. Et en résumé, il pourrait dire, mais tu sais Seigneur, tu dois être content d'avoir un homme comme moi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur la terre. Ah ouais, tu dois être fier, parce que des personnages comme moi, tu te rends compte, je suis l'exception quand même. Alors je dois être le premier de tous. Qu'est-ce que tu en penses Seigneur? Alors la réponse, on va l'avoir tout à l'heure. Et c'est ainsi qu'il raisonnait. Je ne suis pas comme. Donc il y a une comparaison. Et je parlais d'impudence tout à l'heure, parce que c'est vraiment ça. Et nous l'avons vu, parce que je ne suis pas comme celui-ci, ou comme celui-ci, qui sont, parce qu'il juge après, son état d'esprit l'amène à faire une comparaison par rapport à lui-même, et de dire, eh bien les autres, regardez comment ils sont. Regarde Seigneur comment ils sont. Ils sont ceci, ils sont cela, etc., etc. Et nous vous apercevons que l'orgueilleux, dont nous parlons ce soir, remercie Dieu. Il remercie Dieu d'être si bien. Tu sais, Seigneur, hein, c'est quand même quelque chose. Hein. Parce que, franchement, le monde irait beaucoup mieux s'il y avait des gens comme moi. Hein. Parce que moi, je pense. Parce que moi, je réfléchis. Parce que je maîtrise toute mon existence. Et il n'y a rien. Tu sais, si tu... Comme Job le dira à un moment donné, Seigneur, si tu m'introspectes, si tu me regardes de près, c'est je suis pur. Bon, il avait des leçons à prendre, hein, Job. Mais il les a pris. Hein. Je crois qu'après, c'était terminé. Donc on voit que cet homme remercie Dieu. Et c'est le témoignage, tout simplement, d'aveuglement et de méchanceté méprisante, voire même insultante. Parce que quand on va lire. Et comme on l'a lu tout à l'heure, ce qu'il est en train de penser des autres, ce qu'il pense de lui, ça, c'est formidable. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il pense des autres, je dirais même que c'est plus que du mépris, c'est une injure, une insulte. Et ce bien qu'il fait, eh bien, il l'avance. Alors il nous est dit que le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste. » Alors le reste, c'était beaucoup. Hein. C'était tout le reste de l'humanité, le reste des hommes. Alors il dira, mais ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, parce qu'il avait vu qu'il y avait quelqu'un derrière lui, et il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment se fait-il qu'il rentre dans le temple de Dieu, lui, dont je peux discerner qu'il est sale, qu'il est souillé, que véritablement sa vie n'est pas en conformité? Eh bien écoutez, moi ce que je voudrais dire, c'est que moi je me réjouis de voir des gens qui arrivent, malade, pauvre, en haillons, défiguré par la vie, peut-être, par peut-être même le mal qu'ils ont commis et les fautes, pour qu'ils puissent rentrer dans l'église. Parce que s'il faut être pur pour rentrer dans une église, il ne va pas y avoir grand monde. Jésus est un Dieu de miséricorde. Jésus est un Dieu qui pardonne les péchés, est un Dieu qui relève les âmes. Alors, on comprend que lui, il était à la porte pour essayer de faire tout simplement là le. Hein, le tri, en quelque sorte. Et donc, il avance le bien qu'il fait. Il parle que du bien qu'il fait, naturellement. Mais tout ça se transpire d'arrogance. Alors, il est debout, vous avez remarqué, tête haute, plein de lui-même. Il se tient devant Dieu, il regarde le ciel. C'est une belle attitude. Et la mesure de son jugement, que nous avons lu il y a un instant, n'est pas la loi morale de Dieu. Parce que bien qu'il soit très religieux, bien qu'il aille tous les jours dans le temple, la loi, je dis bien morale, c'est pas autre chose. La loi morale de Dieu, c'est vraiment pas, finalement, eh bien, ce qui le préoccupe. Et c'est pas elle qui fait la base et qui est à l'origine de son jugement, en quelque sorte. Mais c'est la comparaison avec les autres. Et lui, il a retourné les choses. Je suis bien parce que les autres sont mauvais. Je suis vrai parce que les autres sont des menteurs. Je suis pur parce que les autres, ce sont tous des voleurs, des adultères, des ravisseurs, etc., etc. Vous vous rendez compte, au lieu de prendre ses sources dans le ciel, et autour et auprès de la parole de Dieu, il la prend en bas. Mais vraiment très très bas. Et lui, il se met au milieu. Il est, en quelque sorte, vous savez, le petit bouchon qui flotte là sur les eaux. Hein, il ne fait que flotter, hein, c'est tout. Hein. À un moment donné, il va couler, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Alors, cette comparaison avec les autres, qu'il juge et qu'il voit mauvais, parce que c'est son regard qui est mal. C'est son regard qui est mauvais. C'est ce que Jésus dira aussi dans les sermons sur la montagne. Il dira, mais si la lumière qui est en toi est ténèbre, si tu n'es pas capable de voir le bien, si tu n'es pas capable de pouvoir apercevoir ou entrevoir que dans chaque homme il y a une lumière, il y a un espoir, même les plus résolus et tombés les plus bas, les laissés pour compte, ben, Dieu appelle, autrement ben, l'évangile ne serait pas l'évangile, hein, et le salut n'existerait pas. Alors, c'est comme ça qu'il voit, et je crois qu'il exagère même les défauts de tous ces gens qu'il connaît, et puis celui qui est derrière lui, là, le pauvre bougre, hein, qui est rentré peut-être depuis, ça faisait peut-être 10 ans, 20 ans qu'il n'était pas rentré dans le temple, et il va se faire, il se fait accueillir là, hein, tous les cas. Hein. Alors il exagère le défaut, jusqu'à la calomnie. Regarde celui-ci, même comme ce pauvre public. Et il en met une couche. Cet homme, cet orgueilleux, fait deux classes d'hommes dans la société. Deux catégories bien marquées. D'un côté, il y a tout le genre humain, ouais. Et puis de l'autre, c'est assez particulier, l'autre classe, c'est la meilleure. Et je vous dirais que dans cette classe-là, c'est lui-même et lui seul. Donc, ça limite les choses. Et vous avez des gens qui ont cet état d'esprit. C'est terrible. Vous savez, on parle de racisme, on parle de xénophobie, on parle de ségrégation, mais ce n'est pas seulement sur les races, ce n'est pas seulement sur les religions, ce n'est pas seulement sur les différentes éducations ou la manière de ceci ou cela dont nous avons vécu de nos origines, mais c'est dans tous les domaines. Et sur le plan religieux, ça n'arrange rien. D'ailleurs, on le voit, hein. C'est terrible, hein. Jusqu'à la haine, jusqu'à une profonde inimitié, et moi je crois que derrière ce détachement de ce pharisien suffisant et plein de lui-même, il y avait... C'était pas de la haine, comme on peut dire, il n'aurait pas fait de mal, je veux dire. Mais ce qu'il y avait dans son cœur, c'était quelque chose qui n'était pas meilleur que la haine, je dirais peut-être encore davantage. C'est ce qu'on appelle de l'inimitié, c'est-à-dire quelque chose de profondément qui refoule, qui rebute. Voilà, en disant, moi je n'ai rien à voir à faire avec ces gens-là. Pourtant, ils habitaient la ville de Jérusalem. Pourtant, ils habitaient peut-être là, certainement peut-être dans les mêmes quartiers. Quoique, je ne sais pas si ces gens-là habitent dans les mêmes quartiers que les autres. Voilà. Ils choisissent leurs amis, naturellement, avec ceux avec qui ils peuvent s'entendre. Ça, c'est un petit peu la version que Jésus donne sur cet homme orgueilleux. Maintenant, nous allons passer à l'humble. C'est intéressant. Alors, on a une petite idée de ce que peut être la modestie, l'humilité. Il n'a peut-être pas toujours été humble, ce pauvre publicain. Peut-être que s'était-il enrichi et que ça lui avait pris la tête, que finalement, il s'était donné brillante et joyeuse vie et qu'il avait claqué tout ça, etc. Et puis, ben, à un moment donné, il ne nous a pas donné les circonstances. Pourquoi il est rentré dans le temple, hein, en tous les cas, il est rentré avec un sentiment profond qu'il avait besoin de Dieu. Alors, le mot « humilité », qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot, c'est le mot « humus ». Et le mot humus, vous savez de ce que c'est, hein, c'est la terre, c'est la poussière. C'est pour ça que c'est véritablement très bien dit dans notre langue française, humilité, humus, terre, poussière. Et c'est intéressant de le prendre en considération parce que autant le premier donnait la caractéristique flagrante et patente de ce qu'il y avait à l'intérieur de lui-même qui était répugnant à cause de son orgueil, autant le deuxième va faire la démonstration de ce qu'il est profondément. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il n'a pas toujours été comme ça. Ça lui est peut-être arrivé avec sa situation de publicain, de mépriser les autres et tout ça. Mais ce coup-ci, là, non. On ne sait pas les circonstances qui l'ont amené. On ne sait pas qui c'est qui l'a poussé, peut-être. Ou lui-même, tout simplement, dans sa conscience, en disant « Je ne veux plus vivre comme ça. C'est pas possible. Je ne peux plus me supporter comme ça. » J'ai menti, j'ai volé, j'ai eu tellement d'aventures, tellement de ceci et cela, J'ai besoin de refaire la paix avec Dieu. J'ai besoin de rentrer dans le temple et puis de lui dire et de lui lâcher le poids qui est sur ma conscience. Et je suis sûr, parce qu'il croyait dans le Dieu d'Israël, qu'il avait certainement entendu quand il était enfant, que ce Dieu d'Israël, c'était un Dieu rempli de miséricorde et de compassion. C'est ça, peut-être, qui l'a amené à rentrer tout à nouveau. Regardez les mots qui sont donnés pour eux en ce qui le concerne. Se tenant à distance, alors que l'autre était debout devant en disant « Seigneur, hein, je suis quand même le meilleur, c'est pour ça que je m'approche de toi. Comment tu me trouves? Beau? Intelligent? Ah, je suis spirituel, hein, je suis certainement des meilleurs. » Alors il se tenait à distance, celui-ci, le contraire du premier. Et il n'osait lever les yeux vers Dieu. C'est-à-dire qu'il avait les yeux vers la terre, en disant, « Seigneur, tu sais, j'ai tellement honte, comme quelqu'un qui a fait une faute, dont il est conscient de sa faute et de la gravité de sa faute et des conséquences de sa faute. » Actuellement, j'ai ma petite fille à la maison. Elle est mignonne, mais c'est une chipie. Elle a 18 mois, elle commence à découvrir tout. Hein. Tout ce qui passe autour d'elle, ça y passe. Hein, c'est... Et elle n'écoute pas trop mamie, parce que mamie, c'est mamie. Voilà. Mais comme papy prend sa grosse voix, alors là, elle est comme ça, elle me regarde. Ça commence à bouger un petit peu là, tous les côtés. Et c'est calmé, après c'est fini. Quand elle fait une bêtise, hein, naturellement. Mais je ne suis pas un papy méchant, hein. Il n'ait pas peur. Hein. Alors, elle n'ose lever la tête. Voilà, oui, j'ai fait ceci et cela. Elle ne se frappe pas encore la poitrine. Mais toujours est-il que lui, en tous les cas, il se frottait la poitrine, parce que c'est comme ça, quand on met son poing sur notre torse, notre poitrine, c'est comme si le siège de notre personnalité, c'était notre cœur. Et comme si on se disait, ah, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ceci et cela. Est-ce que vous croyez que quelqu'un ne fait jamais de bêtises dans la vie? Sont rares, hein? Oh, inexistant. Et ce geste, comme d'autres méthodes que les Juifs avaient lorsqu'ils se présentaient devant Dieu après une faute, alors il nous est dit qu'ils se rasaient la barbe, hein, ils prenaient le sac et la cendre. Voilà, ça c'était des expressions hébraïques. Hein, mais lui se frappe la poitrine. Voilà, en disant, mais tu sais, Seigneur, je suis vraiment un pauvre gars. Et je m'en aperçois qu'aujourd'hui. Ouais. Alors, je viens devant toi. Autant de signes explicites qui parlent du véritable acte de conscience que Dieu attend chez tous les hommes. Que l'on soit ainsi ou que l'on soit d'ailleurs, que l'on soit pharisien ou que l'on soit publicain, que l'on soit religieux ou non, peu importe. Ça, c'est le signe, c'est l'attitude, c'est la motivation, c'est l'expression finalement d'une prise de conscience du mal causé par le péché. On est malheureux, on se sent mal, on se sent embarrassé, on se dit mais... Ah oui, mais Dieu a mis une conscience dans chacun d'entre nous. On sent que quelquefois, quand tout va bien, on est dans la joie, on est dans la paix. Et ça va bien, ça marche bien. Mais quand on a fait une bêtise, alors à ce moment-là, je sais pas, c'est comme quand on a la grippe. On tousse. Hein, la vie, c'est comme s'il n'y avait plus la lumière, c'est comme s'il n'y avait plus d'entrain, c'est comme s'il n'y avait plus la joie. On perd notre gaieté, on perd notre entrain. On se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Est-ce que je peux encore m'approcher de toi? Est-ce que je peux encore oser venir dans une réunion, prier, te demander quelque chose? Comment tu vas me traiter? On est vraiment gêné. C'est comme si on était dans les liens. Et lui, il prend conscience du mal qu'a causé sa vie sans Dieu, qu'a causé sa vie en dehors, finalement, de l'existence de Dieu. Il ne s'en est même pas préoccupé, mais là, ça lui arrive en pleine figure. Il se dit, mais maintenant, c'est pas possible. Et... il a peut-être peur aussi, comme tous les hommes, de l'aboutissement inexorable du péché, avec déjà des conséquences de tristesse et de remords et de regrets, mais plus que le remords et le regret, ce qu'on appelle la repentance, mais les conséquences inexorables du péché, qui est la mort. Vous connaissez le texte de Paul? Oui. Quand il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, et ça, c'est la lumière qui apparaît, parce que c'est dans le même verset, c'est la même phrase, c'est lié ensemble. Mais il nous est dit que le don gratuit nous est donné en Jésus-Christ pour notre salut. Alors là, c'est à nous de faire le pas. Et lui, cet homme, a fait le pas. Le premier est rentré dans le temple pour raconter tout son baratin de prières et de récitations et de ce qu'il était lui-même. Le deuxième a voulu parler de cœur à cœur, et les yeux dans les yeux, nous pourrions dire avec Dieu, pour lui dire, eh bien Seigneur, maintenant je suis rentré, c'est parce que j'ai immensément besoin de toi. C'est le fils prodigue, si vous voulez aller par là, tout simplement. Et il sait très bien que s'il continue à vivre comme ça, il va mourir, mais il ne va pas mourir seulement physiquement, il va mourir spirituellement. Alors il demande à Dieu une chose, c'est ce qu'il demande, qui montre bien toute l'amplitude de son trouble, il demande la paix. Sois apaisé. Eh oui, avoir la paix. Avoir la paix avec Dieu, c'est la réconciliation. Avoir la paix avec Dieu, c'est de lui demander pardon. Avoir la paix avec Dieu, c'est de croire que Dieu nous a pardonné et que moi, je me pardonne aussi parce que Dieu m'a déjà pardonné. Avec tout ce qu'il peut y avoir aussi, eh bien, de conséquences pour pardonner aux autres. Et être pardonné en acceptant le pardon des autres. Parce que c'est tout un ensemble de choses. C'est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. Sois apaisé. Et il demande finalement la reconnaissance. Il demande tout cela parce qu'il a la reconnaissance. Il reconnaît, ce sont des aveux qu'il fait. C'est bien, j'avouerai mes fautes à l'Éternel. Oui, je dirai mon péché. Alors, l'aveu d'un état de perdition. C'est ça la repentance, c'est pas autre chose. Et qu'est-ce que c'est au juste la repentance? Eh bien, c'est ce que Jacques nous dit d'une manière très simple, mais faut-il le rappeler? Oh, il y a un verset particulier de Paul sur la repentance, mais celui-ci, il est pas mal non plus. Je l'ai choisi à votre attention ce soir. Quand il est question de Jacques, chapitre 4 et verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu ». Ah oui, je peux m'approcher de Dieu, je peux rentrer dans son temple, je peux rentrer dans sa présence. Approchez-vous de Dieu, et qu'est-ce qu'il nous est dit? Et il s'approchera de vous. Cette fois-ci, Dieu n'était pas devant dans le temple avec le pharisien, il était derrière à la porte avec le publicain. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est bien la conclusion de notre texte. Vous allez voir un peu comment ça s'est terminé, cette histoire. Sois apaisé. Je terminerai par une petite anecdote, si vous voulez bien, qui est la suivante. Illusion de ne pas vouloir changer de vie. Je prends à témoin ce pharisien qui, lui, était suffisant de lui-même, qui disait, bien moi, je donne ma dîme de tous mes biens, je fais ceci, je fais cela, et il était tout à fait conscient, il dira, mais je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste, je jeûne deux fois par semaine, il devait avoir la ligne quand même, je donne la dîme de tous mes revenus, et ceci et cela, je, et un problème, c'est que quand il a appris la conjugaison à l'école, c'était toujours... toujours au personnel, c'est tout. Il ne connaissait pas le tu, il ne connaissait pas il ne connaissait pas le nous, enfin, ou peut-être très peu, avec ses petits copains, c'est tout, mais le vous, et puis tout pluriel, il ne connaissait pas. C'est toujours au singulier. Je. Ça nous rappelle un autre, Vous savez, c'est le riche cultivateur là, qui va être atteint d'une crise cardiaque et qui va mourir dans la nuit. Oh, il n'y avait pas de défibrillateur à l'époque. Mais toujours est-il que. Voilà. Toujours, c'est l'illusion de ne pas vouloir changer. Satisfait de ce qu'il était, notre premier, là, changer de vie, eh bien, pour nous dire que, quand on ne veut pas changer de vie, que Dieu nous appelle, et qu'il va nous donner encore toutes les capacités pour pouvoir changer, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Il nous est dit dans le livre de Jérémie que, est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Parce qu'il y a des taches sur un léopard. Et il ne peut pas les enlever, parce qu'il est léopard, et puis il a une peau tachetée, tout simplement. C'est comme le zèbre. Pareil, on peut tirer le blanc, et puis laisser le noir. Voilà, on ne change pas, c'est la nature. Mais Dieu nous fait la grâce de nous dire, si tu veux un coup de main, si tu veux mon aide, tu n'y arriveras pas toi-même. Le pharisien pensait qu'il pouvait y arriver lui-même parce qu'il était pharisien. Mais le publicain, il se dit, moi, avec tout ce que j'ai fait de terrible dans ma vie, c'est pas possible, je ne pourrais jamais m'en tirer, c'est pas possible. Mais Dieu fait grâce à celui qui est humble. Alors, eh bien, quand on ne veut pas, quand on ne consent pas, eh bien, ça mène toujours, tôt ou tard, à la catastrophe. Parce que vous connaissez cette parole dans Jacques, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ou ce sont plutôt les orgueilleux qui se résistent à eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, eh bien non, je ne m'abaisserai pas. Je ne m'abaisserai pas. Alors cette histoire, vous allez, ça va vous tout de suite illustrer. Un navire qui affronte une grosse mer près de la côte. Ça peut arriver, hein. Quelquefois ça arrive sur la côte, là, tout de suite, on est bien placé pour le voir. Hein. Alors il y a toutes les précautions qui sont prises pour que les bateaux restent dans le chenal, et puis voilà, ils arrivent. C'est comme ça. Mais bon, admettons qu'il puisse y avoir des cas dans d'autres pays du monde, naturellement. Tout à coup, l'officier de garde, on peut dire la DJ, eh bien, va crier, voilà, pour sur le bateau, il va faire passer le message, lumière à bâbord. Lumière immobile à bâbord. Il va le dire. Il va faire passer le message. Et le risque de collision est plus que possible à brève échéance. C'est pour ça qu'il y a une vigie. Hein. Quand il y a des dangers, il faut les signaler. Alors le capitaine du navire, qui ressemble un peu à notre pharisien, vous allez voir, vous allez le reconnaître. Hein. Bon là, c'est sa marine. Hein. Va crier à son officier de transmission, ou tout simplement de transmettre au navire d'en face de dévier la trajectoire. Voilà. Alors, moi, je ne me déplacerai pas. Moi, je suis. Hein. Je vais jusqu'au bout. Pas de problème. Et il va faire passer le message pour que l'autre navire, eh bien, puisse se détourner tout simplement. Et de lui donner un impératif. Nous voulons que vous détourniez votre route immédiatement, tout simplement. Alors, la réponse arrive aussitôt de l'autre bateau. Hein, il y a des transmissions. Et de l'autre côté, on dit, mais c'est à vous de changer de cap. Et le capitaine réplique tout simplement, « Je suis un bâtiment militaire, je suis un bâtiment de guerre, écartez-vous » Tout simplement. Alors, l'autre répond, « Je suis un phare. » Ouah ! Qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez que les phares ont pour quand même... finalement, utilité d'éclairer, de montrer quand même pour rentrer dans un port, hein, fût-ce le port du salut. Hein. Et en principe, c'est solide un phare. Hein. Quand on voit les paquets de mer qui viennent se briser sur les rochers et les phares, évidemment. Mais c'est intéressant quand même tout cela, parce que c'est l'image... de ce pharisien qui est imbu de lui-même, même si c'est un bateau de guerre, même si c'est un cuirassier ou un sous-marin, enfin, tout ce que vous voudrez après tout, hein, moi j'y connais rien, tout ça, mais imbu de lui-même, entêté, convaincu de ce qu'il croit, de ce qu'il sait, de ce qu'il s'imagine, il est le capitaine du navire. Ils ont du tempérament, les capitaines de navire. Hein. Wow, c'est vrai qu'ils ont de la personnalité, hein. Mais peut-être qu'il faut. Hein. Il est convaincu d'avoir raison, et je voudrais vous dire, que c'est le meilleur moyen de faire naufrage. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure. Quand le publicain dit ceci, « Sois apaisé, donne-moi ta paix, Seigneur, parce que je suis un malheureux, dans tout le sens du terme, je suis un pécheur. » Jésus répond, « Je vous le dis, celui-ci, le dernier, le publicain, celui qui se frappe la poitrine, celui qui demande la paix avec Dieu, il nous est dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. L'autre, il est parti en sifflotant, en disant, « Ah, j'ai été faire un petit bonjour au Seigneur dans le temple de Jérusalem. » Il était content de moi. Et il s'en va en sifflotant comme ça chez lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que là-haut, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Et il s'en va vers la catastrophe. Il s'en va vers le naufrage, et il va faire naufrage. Il pourra toujours dire de l'autre côté, mais j'avais ma religion, mon judaïsme. Et tu sais, hein, Seigneur, si tu les as oubliés, je peux te réciter les 12 tribus des fils d'Israël, hein, où je les connais par cœur, et puis tous les commandements hein, de la Torah, etc., etc. Ben, vous savez, peut-être qu'il va se faire entendre, il aurait peut-être fallu en savoir moins, parce que la connaissance enfle, mais d'avoir un peu plus de modestie et d'humilité, parce que moi, je fais grâce aux humbles et je résiste aux orgueilleux, tout simplement. Alors, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Ouais, Je voudrais terminer avec un simple texte que je ne vais pas commenter, mais parce que c'est Paul qui le dit. Vous savez, Paul, c'est un fier orgueilleux avant de se convertir. Il était juif. Il était rabbin. Eh oui. Il avait été élevé au pied de toutes les sommités de théologie en Israël, Gamaliel par exemple. Il était forcené parce que c'était un violent, un zélé, jusqu'à commettre des crimes et des meurtres. Et il le dira, il écrit hein, tout ça, il le reconnaît. Et il écrira ces choses dans Philippiens chapitre 2 et au verset 3, parce que ça résume un peu ce que nous avons vu ce soir. Il écrit ceci. Ne faites rien par esprit de parti. Oui. Avec favoritisme, avec sélectivité, avec sélection, en essayant de faire des classes d'hommes, de ceci, cela, c'est mes amis, ce sont mes ennemis, je ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas comme moi. Ça ne va pas loin, hein. Ça ne va vraiment pas loin. Alors, ou par vaine gloire, parce que le pharisien c'était ça, hein. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-deux. Au-dessus des autres. Que l'humilité, la modestie, que votre attitude intérieure, eh bien, rende aux autres ce qu'ils sont et l'honneur que vous leur devez, naturellement. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ça me fait penser à mon capitaine, là, et le phare, tu dégages, hein. T'es pas prêt de dégager le phare. Hein. C'est lui qui allait se prendre certainement, et eh bien là. Alors que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez, on n'est pas tout seul dans la vie. Hein. Si ça peut vous rassurer, on est plus de 7 milliards maintenant. C'est pas mal, hein? Alors on a du mal à s'imaginer ce que ça peut représenter, 7 milliards. Déjà, quand on est dans une foule, on se dit il y a du monde, hein. Mais alors, le reste, puisqu'il est assez étrange. Ce qui était étranger, ce qui était merveilleux à la fois, c'est que le Seigneur connaît chacune de ses créatures. Eh oui, il nous connaît chacun d'entre nous. Et puis, quand c'est du côté des Indes ou de la Chine, il n'y a pas trop de monde par là, hein, ben, il connaît chacun aussi. Et il connaît surtout les attitudes et les comportements et les motivations. Qu'est-ce qui fait que nous soyons ceci, que nous soyons cela, que nous disions ceci ou que nous bien, agissions ou réagissions de telle ou telle manière? C'est bien marqué, hein, Jésus l'a dit, hein, il ordonne à cette parabole, tout simplement, persuadant, en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes. Alors si nous sommes justes, puisqu'il est question, il est rentré dans sa maison justifié, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un est traduit devant un tribunal, et qu'on a fait la preuve qu'il est innocent, alors à ce moment-là, il va être justifié. S'il a été dégradé, on va le réhabiliter, et on va prononcer un non-lieu. Je ne connais pas grand-chose, mais moi, il me semble que c'est un petit peu comme ça. Il va être justifié. C'est-à-dire qu'il sera déclaré juste. On l'a accusé de ceci et cela, mais on dira non. Non, 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 c'est pas ça. On a donné la preuve contraire. Qu'il n'a rien fait de mal. Il est justifié. Eh bien, figurez-vous que nous sommes tous justifiés, si nous le voulons. Le Seigneur ne regarde plus nos fautes, il ne regarde plus nos péchés. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut s'imaginer que nous sommes au-dessus des autres. Nous restons humbles et nous restons modestes. Et c'est ainsi que Dieu pourra nous bénir et nous conduire et nous diriger, que nous serons véritablement les fils et les filles de notre Père qui est dans les cieux. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, merci pour ces enseignements pertinents de ta parole. Et quand c'est Jésus qui nous les donne, eh bien, tout cela, Seigneur, eh bien, a véritablement du goût. Tout cela a de la saveur, parce que ça remet l'homme, quel qu'il soit, le petit comme le grand, le riche comme le pauvre, l'ignorant comme le savant, ça nous remet tous, finalement, sur le même pied d'égalité. Quelque part, Seigneur, si nous le sommes au vu et au su des hommes, eh bien, en effet, dans l'apparence et dans l'extérieur, il y a une chose qui va faire la différence. C'est que toi, tu ne regardes pas, Seigneur, à ce qui frappe les yeux, tu regardes au cœur, et nous te bénissons et nous te remercions. Et qu'ainsi, véritablement, eh bien, tu nous apprennes à ne pas marcher la tête haute, remplie de suffisance et d'orgueil, mais donne-nous d'être à l'exemple de cet homme qui est venu vers toi et prenant conscience que pour s'approcher de toi, eh bien, il faut être saint, modeste. Il faut être, en effet, sans arrière-pensée, en croyant que tu accueilles tous ceux qui s'approchent Parce que si nous nous approchons de toi, toi tu vas t'approcher de nous. Et nous te bénissons et nous te remercions. Visite ceux et celles, Seigneur, qui entendent ta parole. Et qu'ainsi tu leur fasses le plus grand bien. Et qu'ils puissent comprendre qu'en effet, Seigneur, obtenir la faveur et la grâce de Dieu passe nécessairement en considérant notre Dieu, en considérant ce que nous sommes et en donnant la place qui revient à notre semblable et de le regarder non pas en dessous, mais de le regarder au-dessus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.